Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Mabel Fongomassimango pour le journal.
Bonjour. Retour au calme à l'université de Kinshasa après les tensions de ces derniers jours. Le campus se vide de ses occupants qui ont jusque ce soir pour le faire. Si certains d'entre eux déplorent cette situation, d'autres la prennent avec philosophie, estimant que les étudiants n'ont fait que récolter ce qu'ils ont semé. Journée vilement prière à Kirumba au sud de Butembo dans le Nord Kivu. Un appel de la société civile locale pour dénoncer et demander justice après le meurtre d'une fille de 19 ans fusillée mardi. C'est le troisième cas de meurtre dans la zone en une semaine. Laurent Mabiala, directeur des études et statistiques à la Direction générale des impôts, DGI, est notre invité. Il nous parle de cette nouvelle mesure selon laquelle un impôt professionnel sur les revenus de 15% doit être prélevé de toutes les primes et avantages accordés à quiconque par le Trésor public. Le calme est revenu depuis hier à l'université de Kinshasa après deux jours d'échauffourée entre policiers et étudiants. Ces derniers dénonçaient la disparité dans la fixation des frais académiques. Beaucoup d'étudiants ont quitté le campus conformément aux instructions du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Et Grâce à Mzati nous dépeint l'ambiance qui a régné hier à l'Unikin.
La colline inspirée devient une colline déserte. Après deux journées des échauffourées entre policiers et étudiants à l'université de Kinshasa, on a assisté ce mercredi à un spectacle de déplacement massif des étudiants vivant au campus. Ils vidaient les résidences volontairement. Les autres l'ont fait depuis hier soir. On pouvait voir dans la matinée déjà des étudiants transporter leurs bagages en moto, en voiture et certains sur la tête. D'autres scandaient des chants dans leurs résidences, demandant au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire de revenir sur sa décision car ils n'ont pas où aller. Devant les résidence des filles, parents et tuteurs étaient venus aider leurs proches à évacuer les lieux avant les 48 heures fixées par les autorités. Aux abords du campus, des habitants des quartiers riverains assistaient à ces spectacles avec un brin d'amusement, contrairement aux étudiants venus des provinces qui n'ont pas de famille à Kinshasa. Pour eux, un vrai casse-tête commence.
J'ai vraiment de larmes aux yeux quand je vous parle parce que je n'ai pas l'endroit où est-ce que je peux passer la nuit pour le moment. Je suis venu de la province de Sankoro. Directement, je suis passé au home. Mais
pour d'autres, le principe de récolter ce qu'on a semé a été respecté.
C'est pas grave. Ce sont les mesures prises par les autorités. Moi, ça me dérange pas. Il y a certains amis qui se sont mécomportés. Et voilà, on ne peut que subir la rigueur de la loi.
Signalons qu'il n'y a pas eu présence des policiers et tout s'est passé dans le calme.
Rappelons que l'ultimatum accordé aux étudiants internes de l'Unikin par le ministre de l'Enseignement supérieur pour quitter le site universitaire expire aujourd'hui. Et dans un communiqué, la police a indiqué que tout étudiant qui sera au home après ce jour sera considéré comme un infiltré et un ennemi de la République et subira donc la rigueur de la loi. Toujours à propos de l'Unikin, ces précisions de la LISADEL, la Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves. Aucune étudiante n'a été violée par des policiers, ces éléments étant restés aux abords du campus d'où ils ont été lapidés par des étudiants. Son président l'a déclaré hier ici à Kinshasa à l'issue d'une enquête menée par cette ONG pour élucider les circonstances des incidents survenus lundi et mardi sur ce campus. Joseph Godé-Okayembe appelle à l'identification des vrais étudiants ainsi qu'aux sanctions contre ceux qui ont participé à la hausse des frais académiques qui ont déclenché ces troubles. Il est joint par Pascal Massirika.
Les policiers ne sont pas entrés dans les homes. Les filles pour les violer, c'est des mensonges. On ne peut pas s'imaginer qu'au niveau de la formation universitaire, qu'on trouve les gens qui s'attaquent aux banques. Même quand à notre époque, on a fait des révolutions, jamais un étudiant peut s'attaquer à une banque ou au bien public. Et ce qui est arrivé, c'est un drame. Ça montre qu'à l'université, soit tout le monde n'est pas étudiant, ou soit ils sont infiltrés. En dehors du fait que les étudiants se sont révoltés, ils ont fait des choses qu'on ne peut pas accepter. En même temps, il faut juste savoir qui a augmenté le frais pour que la personne soit sanctionnée. Même la décision qui a été prise par le ministre, c'est une décision salutaire pour préserver la paix. Mais néanmoins, il faut absolument que l'État puisse aller plus loin pour s'assurer qui est étudiant, qui ne l'est pas. Et ceux qui sont dans les hommes, c'est aussi sanctionner les personnes qui ont participé à l'augmentation des frais et qui ont allumé le feu. C'est ce que nous voulons.
Pour sa part, le syndicat dénommé Conseil des professeurs d'université au Congo, CEPUC, dit prendre acte de la décision du gouvernement de suspendre les activités académiques à l'Unikin. Cependant, cette structure demande aux autorités de trouver une solution globale et favorable à toutes les parties. C'est notamment prendre en charge les enseignants et réhabiliter les homes ainsi que les facultés de l'Unikin. On écoute le secrétaire général du syndicat Conseil des professeurs d'université au Congo, professeur David Loubo. Il est joint par Grâce Amzati.
Nous avons pris acte de toutes ces mesures-là. Après la pluie vient le beau temps. Je crois que la suspension momentanée était nécessaire pour une certaine accalmie. Mais nous souhaitons que pendant ce temps, que le gouvernement, dans la mesure de ses possibilités, réfectionne les hommes et pourquoi pas les facultés qui n'ont jamais été réfectionnées, dont la dernière couche de peinture date de 1954. Notre dernière position, c'est de voir le gouvernement s'assumer jusqu'au bout. Si, dans la mesure de ses possibilités, le gouvernement peut arriver, après un laps de temps, à supprimer cette prime qui nous fait turlupiner, humilier, sabouler par ce que nous formons, ce serait bien. Comme ça, le gouvernement se contentera des frais communément appelés Nirval et les professeurs vont avoir un salaire de 100 au lieu d'avoir presque une mise sous tutelle. Parce que quand les étudiants vous prennent en charge, ça engendre les désordres, ça engendre les effectifs non contrôlés parce que chaque établissement compte sur les nombres pour survivre.
Et puis, dans une déclaration publiée hier, le chef d'établissement des universités et instituts supérieurs publics et privés de la ville de Kinshasa recommande au gouvernement notamment de poursuivre les mesures prises à l'université de Kinshasa. Il lui demande aussi de maintenir une attention particulière sur tous les établissements de la République et enfin de saisir cette occasion pour initier une réflexion profonde sur le fonctionnement des établissements de l'enseignement supérieur universitaire lors des prochains états généraux. Au Nord Kivu, toutes les activités ont été paralysées hier à Kirumba, une commune rurale située à environ 150 km au sud de Butembo, territoire de Lubero. C'est la société civile locale qui a appelé à cette journée ville morte pour protester contre l'assassinat d'une jeune demoiselle en plein centre de Kirumba par des personnes non encore identifiées la nuit de mardi. Précision, Sadiq Aboubakar.
D'après Kambere Bonané, président de la société civile de Kirumba, les activités resteront paralysées dans ce centre de négoce jusqu'à ce que les auteurs de cet assassinat soient arrêtés. Sachez que la pauvre dame, âgée de 19 ans, a été fusillée dans la soirée de mardi par des inconnus lorsqu'elle revenait de son lieu de travail. Elle a succombé à l'hôpital général de Kaina où elle a été dépêchée. Pour la société civile, ce cas d'assassinat est le troisième dans la zone en l'espace d'une semaine. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, un chauffeur de taxi moto en provenance de Butembo a été étranglé dans la région. Le dimanche, un habitant de Kirumba a été lâchement abattu par un élément Maïmaï en processus de reddition. Kambere Bonané dit en avoir marre. Il appelle les autorités à tout mettre en œuvre pour mettre la main sur les auteurs de ces actes ignobles afin que justice soit faite. L'administrateur du territoire de Lubero, Richard Nyembo Anyembo, n'a pas répondu à nos appels pour avoir sa réaction. Butembo, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, la Fédération des entreprises du Congo, FEC, déplore la détérioration du climat des affaires qui a caractérisé ce secteur au cours de l'année 2019. Au cours d'une cérémonie d'échange de vœux organisée à Kindu mardi, le président de la FEC Maniema a indiqué que l'insécurité ainsi que l'enclavement bloquent encore la croissance économique de cette province. Pierre Wassoli Lantongi appelle à l'assainissement du climat des affaires pour permettre aux investisseurs étrangers et nationaux de s'intéresser à la province du Maniema. Il l'a dit à Christian Mapindano.
Nos membres ont été victimes de plusieurs cas d'insécurité perpétrés par les hommes porteurs d'armes à feu qui ont soit cambriolé, braqué, extorqué ou atteint physiquement les paisibles citoyens. Nous condamnons ici particulièrement et fermement les attaques à répétition dont a été victime l'entreprise Namoya Mining Group Bandro qui a dû fermer ses activités. Les effets néfastes de cette fermeture forcée se font sentir sur plusieurs aspects de la vie socio-économique de la province, à savoir perte des impôts et taxes de l'État, envoi en chômage de plusieurs de nos compatriotes. L'assainissement des climats des affaires est un atout pour l'attraction des investissements tant nationaux que directs étrangers ID. Quelques services étatiques se sont distingués par les tracasseries administratives caractérisées par les perceptions illégales et contrôles intempestifs sans précédent. L'enclavement de la province, certains axes routiers d'intérêt national et des dessertes agricoles restent dans un état de dégradation très avancé.
Pierre Wassoli, la président de la FEC Maniema. La Congolaise Julienne Lusengi a été plébiscitée sur une liste de 20 femmes influentes au monde en 2019, publiée le 31 décembre dernier par ONU Femmes. La présidente de l'ONG Solidarité des Femmes pour la Paix et le Développement Intégral, Sophie Paddy, est en tête de cette liste où se retrouvent plusieurs autres femmes de plusieurs pays comme la France, les États-Unis ou le Sénégal. Comment cette activiste dans la lutte contre la violence faite à la femme, qui fut d'abord journaliste, justifie-t-elle cette distinction de l'ONU pour l'année 2019, Julien Lusengi répond au téléphone de June Gala.
Ça fait 20 ans que Sophie Paddy œuvre pour lutter contre toutes sortes de violences faites à la femme, promouvoir les droits des femmes et impliquer les femmes dans la restauration de la paix. Nous avons un hôpital à Bounia qui qui offre le service holistique aux femmes victimes de violences sexuelles. Nous avons installé des noyaux de paix où les femmes prennent le leadership dans les villages pour traiter les conflits communautaires, mais aussi faire des recherches sur les causes des conflits dans les communautés. Nous avons aussi initié des actions de réinsertion des victimes dans les communautés où les femmes arrivent à s'autonomiser, à être capables d'avoir l'épargne, avoir des champs communautaires. Nous avons aussi fait beaucoup de plaidoyers sur la situation des femmes au Congo pour mettre fin à cette question des violences sexuelles qui rongent notre communauté.
Actualité internationale.
Après les frappes iraniennes contre les bases abritant des soldats américains en Irak en riposte à l'assassinat du général Qassem Soleimani, le président Donald Trump s'est exprimé hier depuis la Maison Blanche. Plutôt qu'une surenchère militaire, Donald Trump choisit de renforcer la pression économique sur la République islamique. Le comportement de l'Iran a trop longtemps été toléré. Ces jours sont finis, a-t-il averti, annonçant de nouvelles sanctions immédiates contre Téhéran jusqu'à ce qu'il change d'attitude. Les autorités algériennes ont annoncé hier la composition de la commission chargée de réviser la Constitution et compte 17 personnes, en majorité des professeurs de droit. Le président Abdelmadjid Tebboune répond ainsi à l'une des principales revendications du mouvement de protestation. Le nouveau chef de l'État donne cette priorité à cette révision, c'est notamment renforcer le droit et les libertés, moraliser la vie publique et lutter contre la corruption. La commission devra aussi se pencher sur la séparation et l'équilibre des pouvoirs. Notez que depuis 1999, la Constitution avait été modifiée 3 fois sous la présidence d'Abdelaziz Bouteflika. Et puis cette scène de panique hier dans un quartier périphérique de Ouagadougou, une grenade a explosé entre les mains d'un élève en pleine classe dans une école franco-arabe. 4 élèves ont été blessés, dont 2 dans un état grave.
L'invité.
Toutes les primes et tous les autres avantages accordés par le trésor public à quiconque sont désormais assujettis à l'impôt professionnel sur les revenus à hauteur de 15%. Ce prélèvement obligatoire s'impose à toutes les institutions nationales, provinciales, locales et aux instances politiques. Pour en parler, Radio Capi reçoit Laurent Mabialaoumba, directeur des études et statistiques à la Direction générale des impôts DGI. Il répond aux questions de Daniel Tambinzoni.
Monsieur Mabialaoumba, bonjour.
Bonjour.
L'actualité fiscale aujourd'hui est marquée par la retenue fiscale que la DGI va désormais appliquer sur les rémunérations et les primes et tous les autres avantages que les fonctionnaires de l'État vont bénéficier. Et cela crée déjà des remous au sein de l'administration publique. D'où vous sortez ces 15% aujourd'hui?
Cette retenue à la source des 15% ne concerne pas seulement les fonctionnaires, il concerne toute personne qui reçoit une prime en République démocratique du Congo. Il est vrai que jusque-là, cette retenue n'était pas effectuée sur les fonctionnaires, ainsi que les politiques.
Ben,
voilà, j'en viens. Sur les fonctionnaires, sur les politiques, sur pratiquement tous ceux qui sont rétribués par les trésors publics, cette retenue n'était jusque-là pas effectuée. Mais il existait quand même un arrêté interministériel du 7 mai 2014 qui prévoyait cette retenue à la source, mais qui n'était pas encore mise en mouvement, étant entendu que on considérait que le revenu du fonctionnaire était déjà imposé à l'hyper forfaitaire, d'ailleurs, je peux le dire, inférieur même à celui du SMICAR. Aujourd'hui, je dois préciser que si nous nous en remettons maintenant à élargir cette assiette, c'est par rapport aux assignations budgétaires de l'exercice 2020. Souvenez-vous que l'année dernière, la DGI a été appelée à produire 4 011 milliards de francs congolais et cette année, on demande à la DGI de produire plus de 6 266 milliards. Donc, si nous devons traduire en dollars américains, sur le budget de 10,9, disons 11 milliards de dollars américains, la DGI doit fournir autour de 4 milliards, donc le double de l'année dernière. Donc, il est tout à fait normal que nous puissions aller lire la loi fiscale et l'appliquer dans son intégralité par rapport à l'ensemble des contribuables.
Les privés payés. Ce qui n'était pas fait les années antérieures.
Tout à fait. C'est-à-dire que les années antérieures, réalisme fiscal oblige. Il est vrai que, vous savez, le réalisme fiscal est tel que, on s'est dit, l'efficience fiscale aussi, quand on combine un peu toute cette théorie-là, on dit, il y a déjà l'hyper qui est prélevé, les primes, il y en a qui payent, il y en a qui ne payent pas. Mais aujourd'hui, par rapport aux assignations budgétaires, aux impératifs des assignations budgétaires, nous sommes tenus d'appliquer dans son intégralité, dans sa rigueur, tout ce qui est prévu dans la loi fiscale. Ça, c'est titre que l'article 87 de notre ordonnance loi 69-009 du 10 février 69 va être appliquée dans son intégralité de la même façon que nous le faisons déjà dans le privé. Souvenez-vous que quand vous allez à Kingawa aujourd'hui, vous verrez les journaliers qui demandent à faire des petits boulots, des petits travaux de manutention et autres.
Chez les privés.
Eh bien, chez les privés, vous allez à Kingawa, ils font les pieds
ils
de grue.
Ils payent déjà les 15%.
Ah oui, on leur retient les 15% d'office, quel que soit le montant de rétribution qu'ils reçoivent en fin de journée. 15% d'office, ils payent. Mais alors, pourquoi pas nous, les fonctionnaires? Pourquoi pas nous, les politiques? Pourquoi pas nous, les agents publics qui travaillons dans des conditions encore peut-être meilleures et qui percevons peut-être des primes aussi plus substantielles? Pourquoi pas? Et que donc, au nom de la justice, de l'équité fiscale et de la cohésion nationale, de l'unité nationale, tout le monde va mettre la main à la poche. Et je pense qu'il y a un problème de responsabilité qui va se poser. Parce que les redevables et légaux, ceux qui doivent venir verser cette prime, c'est ceux-là qui seront appelés à retenir cette prime. Et donc, c'est qui? C'est le ministère du budget à travers les sous-gestionnaires pour ce qui est de la chaîne de la dépense, toutes les primes qui passent par la chaîne de la dépense. Et pour les primes qui ne passent pas par les chaînes de la dépense, c'est-à-dire celles qui sont versées soit par des cabinets politiques, par des responsables politiques qui reçoivent des dotations budgétaires ou qui reçoivent des frais de fonctionnement, parce qu'il y a des primes aussi qui sont payées là-dedans, eh bien, ils sont tenus pour responsables, pour redevables et légaux. Et lorsque vous êtes redevable légal, vous devez savoir que si la prime n'est pas reversée, vous êtes personnellement tenu responsable. Et la sanction fiscale est prévue, c'est quoi? C'est le redressement fiscal qui sera mis à leur charge individuelle. Mmh. Et les responsabilités seront établies.
Mmh. Monsieur le directeur, les syndicats de l'administration publique pensent qu'il a fallu un dialogue avant d'appliquer les 15%. Mais au niveau de l'administration fiscale, non, on passe. C'est un coup de force, ça?
Non, il n'y a pas de coup de force. En matière fiscale, je répète que la matière fiscale, c'est la volonté du peuple déjà lui-même. Parce que la source de la loi fiscale, c'est quoi? C'est la Constitution. L'article 174 de notre Constitution, dans chaque pays, on prévoit toujours ça. Et chez nous, c'est l'article 174 qui dit qu'il ne peut avoir d'impôt que lorsqu'il y a une loi. Donc, les syndicats auraient dû aller poser ces problèmes peut-être au niveau de la loi des finances lorsque elle était en confection. Parce que nous, DGI, nous sommes des exécutants.
Donc, ce serait aller à une grève inutile.
Mais je le pense, parce que je viens de le dire. Nous, DGI, si nous ne lèvons pas ces 15%, nous sommes en faute.
Monsieur Laurent Mabiala, merci.
Laurent Mabiala, directeur des études et statistiques de la Direction générale des impôts. Fin de ce journal, supervisé par Alain Rong, mis en onde par Jean-Claude Siala. Merci à vous qui nous avez accordé votre temps. Passez une excellente journée.